Une journée exceptionnelle à suivre sur France Inter avec, à partir de 11h, une émission spéciale en direct et en public du Studio 106. Laura Adler.
J'aurai la chance d'accueillir des femmes venues de Tunisie, de Libye, d'Égypte et de Syrie en présence d'Elisabeth Banater pour témoigner de leurs espoirs et de leurs conquêtes un an après les révolutions arabes. Je vous attends nombreuses et nombreux pour les écouter, les rencontrer et aussi pour les soutenir.
Pour assister à l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Et vous cliquez sur Révolutions arabes, Révolution des femmes.
L'appel du 8 mars, une émission spéciale présentée par Laura Adler, jeudi à partir de 11h. France Inter, la différence.
15h04 sur France Inter et voici Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis.
Allez-y, poussez, les avants de Bayonne, allez-y, poussez, la bière en Bayonnais. Bayonne, Bayonne, sur la Libe et sur la Lourde, Bayonne, Bayonne, oui, je t'aimerai toujours. Aurel de Taïwan.
Je ne suis pas une grande scientifique, mais je crois savoir que les ondes radio que nous émettons s'échappent dans l'espace. Alors, est-ce qu'elles restent assez coordonnées pour que des habitants d'une planète située à quelques années-lumière reçoivent un jour en cohérence le répondeur de là-bas si j'y suis, les émissions de là-bas si j'y suis, la voix, la grave voix de Daniel? Mais c'est assez fascinant de penser que peut-être c'est pas perdu pour toujours. Ça s'échappe comme ça, mais ça va peut-être se poser quelque part, on ne sait jamais. Bon, alors on va peut-être faire attention à ce qu'on dit, parce qu'on est écouté.
Un parallèle entre l'émission avec le monde diplomatique, la séquence consacrée à Jean-Hervé Lorenzi, et l'humanité de ce même jour, où Geoffroy Juens, universitaire à Liège, analyse la phrase démobilisatrice de François Hollande au Bourget. La finance, mon adversaire, n'a pas de visage et elle ne se présente pas à l'élection. Pour Geoffroy Juens, il est plus confortable de dénoncer la finance que de s'en prendre aux acteurs réels de l'oligarchie française. Un tel projet obligerait François Hollande à s'attaquer aux privilèges de certains de ses propres conseillers, au capitalisme de connivence et les liens entre les uns et les autres. Régis de Nîmes.
Je m'appelle Jean-Yves et je suis un AMG depuis des années. Je dois beaucoup à ma culture politique à Daniel Mermet. Mais bon, j'ai été surpris de la charge de vendredi contre Michel Onfray, que je considère de la famille, je dirais, si on peut parler comme ça, pour ce qu'il fait, pour le milieu qui vient. Finalement, c'est vrai qu'il avait eu déjà des foudres qui étaient tombées sur lui quand il avait fait un bouquin sur Freud, et là, c'est vrai qu'il touche à une vaste sacrée de la gauche, qui est Jean-Paul Sartre. Alors, quelque part, ça ne m'étonne pas, mais pour moi, je le considère de la famille, comme Emmanuel Todd, comme tous ces gens-là, et je pense que c'est un peu con de se diviser. Voilà.
Salut Daniel, c'est Nico des éditions Libertalia de la CNT. Un mot pour réagir à ce que vient de dire Jean-Pierre Garnier sur Michel Onfray. Bon, Michel Onfray, ça fait longtemps que c'est plus un dieu chez une grande partie des anarchistes, heureusement. Sur Camus, que Onfray passe son temps à salir malgré lui, il existe un très très bon bouquin qui n'a pas eu le succès de celui d'Onfray, qui a eu la chance d'être défendu par François-Olivier Gisbert et... qui a été édité par Flammarion. Enfin, donc, il y a un bon bouquin qui est sorti en 2008 dans une toute petite maison d'édition qui s'appelle Égrégore Édition. Et c'est un bouquin qui a pour titre Albert Camus, les libertaires, 1948-1960. Ce sont les écrits de Camus et de nombreux commentaires accompagnés d'une forte iconographie. Et tout ça, ça a été rassemblé par Lou Marin. Lou Marin, c'est un spécialiste anarchiste de Camus. Ça donne une belle vision de l'auteur de l'homme révolté, très très éloignée de celle d'Onfray. D'ailleurs, Lou Marin a démoli le bouquin d'Onfray dans l'hebdomadaire Monde Libertaire. Mais hélas, je ne doute pas que Onfray ait pensé à rédiger son brouet, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Garnier, suite à la lecture de ce bouquin. Donc, je répète, Albert Camus et Libertaire, 1948-1960, ça a été publié par Égrégore Édition en 2008 et c'est encore disponible. Salut à tous.
Salut Daniel. Pour réagir aux propos de Jean-Pierre Garnier dans l'émission d'hier, Je voudrais revenir sur la démarche de Michel Onfray. Onfray a créé l'Université populaire de Caen pour se libérer du carcan de l'éducation nationale et enseigner une philosophie tout à fait subjective. Sa perspective est athée, ce qui n'est pas rien quand on pense que la philosophie occidentale est dominée par 2000 ans de christianisme, non bourgeoise et donc populaire au sens du plus grand nombre, antilibérale et libertaire, car il lui est odieux de suivre autant que de guider. Son enseignement clair, libéré des pensifs et du vocabulaire fumeux et ésotérique qui, d'ordinaire, nous éloigne de cette matière, est une des raisons de son succès. Sa pensée est cinglante et nous pousse à nous positionner en pour ou en contre, et j'y vois là l'origine des passions qui le déchaînent. On dit de lui qu'il n'est pas un grand philosophe, mais grand en regard de quoi? Pour Onfray, la philosophie est un combat. Pour Mermet, le journalisme est un combat. Voici deux contemporains, l'un à la plume, l'autre au micro, qui, par leur refus d'une insipide impartialité, déchaînent les mêmes passions. Alors, gageons qu'un jour, ils se rencontreront, et qu'ensemble, ils produiront la plus modeste et la plus géniale émission pour le plus grand bonheur des auditeurs de là-bas, si j'y suis.
Merci pour ces messages, chers AMG. Effectivement, l'intervention de Jean-Pierre Garnier dans l'émission de vendredi avec le monde diplomatique a secoué pas mal de répondeurs. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vais vous dire, cette intervention de Jean-Pierre Garnier. Ça rappelle les envolées de Jean-Louis Bory, et de Charensol, au temps de... Du masque et la plume de jadis, on s'emballe, on polémique, on pamphlète, et ça fait du bien dans un monde feutré de faux culs qui attaquent indirectement, si toutefois ils attaquent, mais c'est toujours un peu par derrière et de façon très 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 sourde et très indirecte. Là, ça y va carrément, franchement, honnêtement, et effectivement, Garnier démolit le bouquin d'Onfray sur Camus. Il n'est pas le seul, et voilà, la polémique est ouverte, et on espère que ce genre de ton, ce genre de façon de procéder, de s'opposer, revienne. Ça me semble toujours plus sain que, plutôt que d'attaquer de façon indirecte et sournoise. Aujourd'hui, on va encore sauver les pigeons. C'est la passion de Charlotte Perry, c'est de sauver les pigeons et les colombophiles. Elle s'est occupée, vous vous souvenez, des pigeons de Natixis, 2 800 000 pigeons. Et vous-même, vous avez aimé Bernard Madoff, 65 milliards de dollars. Vous avez aimé les subprimes, vous en avez parlé, 11 millions de victimes, 750 000 expulsions. Vous avez aimé tout ça. Alors aujourd'hui, vous allez adorer les pigeons d'Apollonia. Une petite escroquerie d'un milliard d'euros, 700 clients grugés, 3 notaires en prison pour faux en écriture et des banques qui sont poursuivies, Crédit Immobilier de France, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et bien sûr les auteurs de cette escroquerie phénoménale, les époux Badache, dirigeants d'Apollonia qui eux aussi sont à l'ombre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire, c'est un feuilleton dans lequel nous rentrons et dont nous rendons compte aujourd'hui, notre but étant bien évidemment de sauver nos chers petits pigeons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Mermet, bonjour toute l'équipe, c'est Christine de Nîmes. J'appelle pour laisser un message pour le repère de la base si j'y suis, de Nîmes et des environs. Pour rappeler à tous que nous avons changé de date. Nous nous voyons maintenant le deuxième mercredi de chaque mois. Notre prochain rendez-vous est donc le mercredi 14 mars à 19h au bar des Ramblas. Ça n'a pas changé, c'est comme d'habitude. Venez nombreux.
Les économistes sont des chirurgiens qui ont un excellent scalpel et un bistouri ébréché, opérant à merveille sur le mort et martyrisant le vif. Voilà, c'est de Nicolas Chamfort, un moraliste du XVIIIe siècle.
Aux pharmaciens, vos officines ont un charme qui me fascine. Les parfums que l'on y respire me rappellent, je dois vous dire, ce qu'étant petit garçon, je dégustais à ma façon chez mon voisin l'apothicaire, qui était herboriste aussi. Sur leurs rayons, je vois encore les pots en vieux moustier,
Je revois la lumière verte et la lumière purpurine dont s'emplissaient les deux ballons, éclairant le soir la vitrine. Feu de bâbord et de tribord qui faisait penser au voyage de haute mer et de grand vent. Parmi tes drogues, à succès, pharmacien, vends-tu du courage? Si ce cordial te manque, donne-moi vie dans l'occurrence pour calmer un jour ma souffrance, ami. Une once d'espérance. François D.
On a vécu des années dramatiques. Pour nous, la vie s'est arrêtée le jour où on a découvert cette escroquerie. Ce sont des années de vie qui nous ont été volées par des voyous.
Il y a un an, les dirigeants de la société Apollonia sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée.
Et en l'espèce, il y a à l'intérieur des banques des requins, effectivement, qui n'ont que faire de la situation des personnes, du moment qu'ils dégagent du profit, c'est clair.
Faux, usage de faux et abus de confiance. Le montant de cette arnaque dépasserait le milliard d'euros.
Aujourd'hui, je dis, messieurs les banquiers, vous avez du sang sur les mains.
Nous sommes les pigeons incomplets, là. Hein.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Charlotte Perry. Les pigeons d'Apollonia.
Flight number 2, arriving from...
Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes bien à bord du TGV 6107 à destination de Marseille-Saint-Charles. Nous vous rappelons que ce train desservira les gares d'Avignon TGV et Aix-en-Provence TGV.
Alors voilà, il est 10h du matin et je me trouve dans le train en direction du sud de la France et je pars à la chasse aux pigeons. Ce sont les pigeons d'Apollonia. Apollonia, c'est cette société basée à Aix-en-Provence et spécialisée dans l'investissement immobilier défiscalisé qui attirait ses clients en leur faisant miroiter des avantages fiscaux très intéressants et la constitution d'un patrimoine pour la retraite. Vous empruntez pour investir dans la construction d'un logement neuf et les loyers financent les emprunts, le tout en défiscalisant. Nombre de médecins du sud de la France ont mordu à l'hameçon. Sauf que ce beau placement s'est révélé être la plus grosse escroquerie immobilière de ces dernières années. 2000 victimes ruinées, surendettées à vie, 1 milliard d'euros de préjudice, des notaires, des commerciaux et maintenant des banquiers mis en examen, et une enquête qui dure depuis 2 ans. Mais cette affaire, si elle est unique en son genre de par son ampleur, est en fait très révélatrice. Depuis les années 2000, l'État, pour tenter de pallier à la crise du logement, a incité les épargnants un peu aisés à investir dans l'immobilier neuf à travers une carotte fiscale. Et par là, a ouvert la brèche pour tout un tas de sociétés spécialisées dans la défiscalisation immobilière et dans la chasse aux pigeons. Alors voilà, là on va bientôt arriver à Avignon et on va aller rencontrer Claude Michel qui a fondé l'association des victimes d'Apollonia qui regroupe aujourd'hui 450 foyers, 800 personnes à peu près, toutes plumées, toutes lésées, mais qui ont décidé de se battre.
Alors vous nous connaissez, toujours du côté des opprimés, toujours du côté des victimes, c'est là-bas si j'y suis, nous voici. Sauf que là, on est un petit peu partagé. On est un petit peu partagé, bien sûr, 2000 victimes, c'est pas rien, mais on a dit des médecins, des gens plutôt aisés qui songeaient, s'enrichir, enfin faire fructifier. Et puis, des escrocs qui ne sont pas non plus des assassins, qui sont des escrocs. Si bien que l'équipe de la base si j'y suis, je vais vous dire, est partagée. Partagée entre les victimes, les pauvres gens qui avaient 3 petits sous et qui se sont fait plumer. Et ceux qui pensent que, ben voilà, oui, mais enfin, ils se sont fait avoir, les autres ont pris l'argent, bon, ils sont d'ailleurs en prison maintenant. Enfin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous allez d'abord vous faire une idée si vous ne connaissez pas l'histoire, et vous ne la connaissez peut-être pas dans les détails, cette histoire. Elle est particulièrement passionnante et révélatrice de ces temps cupides, stupides, que nous vivons. Oh, l'escroquerie à la finance ne date pas d'hier. Là, vous avez compris, il s'agit à nouveau de dire « Mais pourquoi vous payez des impôts? C'est idiot !» Alors que vous pouvez défiscaliser. On va vous conseiller. Oh là là, c'est pas compliqué. Vous avez une maison? Ah non? Ah bah alors attendez, mais vous pouvez acheter une maison. Vous n'avez pas de fonds, ça tombe très bien, il n'y a pas besoin. Et comment vous allez faire? Eh bien, vous allez la louer. Et puis avec les loyers, vous paierez votre maison et ainsi vous deviendrez propriétaire. D'ailleurs, vous pouvez en prendre plusieurs. Vous serez propriétaire d'autant de maisons une fois que vos locataires, pigeons, vous auront payé vos... Formidable, non? C'est formidable, formidable. On a déjà vu des histoires comparables dans la base où j'y suis. C'est une des passions de Charlotte Perry. Elle a un petit faible comme ça pour les pigeons. Elle est un peu colombophile sur les bords, probablement. Et là, donc, aujourd'hui, elle attire l'attention sur cela. Avec une question quand même... pour ou contre ces pigeons? Avec ces pigeons ou... Bon, tant pis pour eux. Commisération, soutien... Question jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, les pigeons d'Apollonia.
Mesdames et messieurs, chers amis du Crédit Mutuel de la Montagne Verte, à l'occasion de l'agrandissement de nos locaux, nous voudrions vous remercier pour votre fidélité et votre sympathie à l'égard de notre caisse mutuelle. Que ce petit souvenir musical vous apporte joie et gaieté.
As-tu besoin d'argent ou d'un service urgent en cas de nécessité? Adresse-toi simplement à ton seul confident qui pourra toujours t'aider. Tu le trouves bien réel dans un cadre modèle avec sa banque rénovée. Et à la Montagne Verte, tu lui restes fidèle au Crédit Mutuel.
Au Thor, c'est à 20 km d'ici.
Où ça?
Le Thor.
C'est là où vous habitez?
C'est ça, c'est mon domicile. Il se trouve à 20 km d'ici, à peu près. Sur la route de la Nationale 100 qui va vers les Alpes d'Haute-Provence. Et un petit peu avant l'Isle-sur-Sorgue, disons.
Et vous appelez comment alors?
Michel, comme le prénom, et Claude, comme le prénom aussi.
Michel, c'est votre nom de famille?
C'est ça, oui. Je suis né au Thor, il y a un certain nombre de décennies, on va dire comme ça. Et puis, j'ai pas mal navigué un petit peu dans toute la France pour les besoins du métier, quoi.
Vous faisiez quoi comme métier?
Ben, j'ai été pendant 20 ans professeur et pendant 20 ans proviseur.
Et maintenant, vous êtes à la retraite?
Oui, je suis à la retraite, oui. C'est une façon de voir les choses. J'ai trouvé une occupation... L'affaire Apollonia, qui nous occupe personnellement, cette affaire-là m'occupe depuis 5-6 ans, depuis qu'on a découvert qu'on était au fond du gouffre, sous une chape de plomb, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Là. Puis l'équipe Apollonia ont été incarcérés. Alors là, nous sommes devenus des victimes d'une escroquerie en bande organisée. Jusque-là, nous étions des mauvais payeurs, des imbéciles, des idiots qui s'étaient surendettés, etc. On nous considérait comme ça.
Qui ça ?
Oh, disons, qui ça ? Mais vous savez, quelquefois les proches, les voisins, les amis, les etc. Les gens. Les gens disaient, bon, ce sont des gens qui ont voulu s'enrichir, qui ont voulu, etc. Toute l'association est composée de personnes qui se lèvent le matin pour aller travailler. Il n'y a pas chez nous de rentiers, ce ne sont que des gens qui travaillent, qui ont des métiers différents. On se trouve qu'on a une forte proportion de métiers médicaux et paramédicaux. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ces gens-là ont une très forte chute de revenus lorsqu'ils passent de l'activité à la retraite. Et donc, ils ont voulu essayer de se constituer un complément de retraite, ce qui a été mon cas d'ailleurs, bien que je ne sois pas des milieux médicaux. Et donc, on a été des proies très faciles. Alors là, vous voyez au fond, là-bas, sur la gauche, au fond, c'est le Mont Ventoux.
Ah oui, là-bas.
Oui, toute la partie supérieure qui est empirée, qui est blanche. En face, vous avez les monts de Vaucluse. Et sur la droite, au fond, on ne le voit pas très bien, c'est le Luberon. Voilà notre colline, là-bas en face, Touzon, avec le château.
Ah oui, là, qui se dresse.
Voilà, ça fait partie du Thor. Voilà ma maison.
Ah, tout en pierre, comme ça, c'est beau.
Et oui, mais vous savez, tout ce que vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. Je vais vous faire voir si ça vous plaît. On est arrivé. Entrée de service, là.
Bonjour, oui, madame.
Bonjour, enchantée.
Enchantée. C'est vous qui avez fait tout le carrelage ?
La table, c'est moi qui l'ai faite, celle-là aussi, là-bas.
Oui, oui.
La cheminée, les luminaires, là aussi.
Ah, mais vous fabriquez tout ?
Oui, 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 je faisais beaucoup de choses. J'en fais beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, j'en faisais beaucoup. Mais ça me plairait de pouvoir en faire encore, mais bon, je n'ai pas le temps. On passe tout notre temps, quelquefois 12 heures par jour, l'un et l'autre, pour traiter les problèmes. Nous, le problème, il repose sur trois piliers qui ont constitué pour nous l'essentiel de l'escroquerie. Le premier pilier, c'est Apollonia. Bon, la bande Apollonia ont été incarcérés, sont mis en examen, etc. Le deuxième pilier, c'était le notaire. Si les notaires avaient fait leur travail normalement, il n'y aurait pas eu d'affaire à Polonia. Et puis, le troisième pilier, ce sont les banquiers. C'est à cause d'eux que Badache, c'est-à-dire Apollonia, a pu mettre en place cette grande escroquerie dans laquelle sont impliqués et ont collaboré, ont contribué notaires et banquiers. Banquiers, et je dirais même banques. Parce que bon, des banquiers véreux, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais que des banques aient pu mettre en place des stratégies pour spolier les gens, c'est quand même autre chose. Alors, c'est ce qui est le plus scandaleux, parce que bon, que des gens comme Apollonia aient voulu monter une escroquerie, des escrocs, il y en a des quantités. Mais là, ce sont des escrocs qui profitent d'une enseigne, le Crédit Agricole, le Crédit Immobilier de France, la BNP, et le pire de tout, le Crédit Mutuel, ça c'est le pire de tout. Tous ces gens-là ont contribué au montage de cette escroquerie et à l'exécution de toute la procédure conduisant à notre ruine. Nous avons été amenés à créer une cellule d'écoute psychologique.
C'est un numéro de téléphone ?
Oui, un numéro vert. Quand les gens ont découvert qu'ils étaient escroqués à ce point, parce que bon, on peut se faire escroquer, mais là, il faut savoir que nous avons un taux d'endettement qui va de 2 à 5 fois notre capacité. C'est-à-dire qu'il faudrait plusieurs générations pour arriver à redresser la barre. C'est absolument impossible. Et ça, ce que les banques n'ont pas compris, qui est dramatique, c'est que quoi qu'elles fassent, jamais on pourra payer. C'est pas possible.
On va déjeuner et puis après vous me raconterez l'histoire depuis le début.
Merci.
Merci.
Voilà, voilà, vous commencez à entrer un peu dans cette histoire. L'histoire de la société de gestion de biens Apollonia, dirigée par Jean Badache, basée à Aix-en-Provence, qui, dans les années 2000, démarche des clients plutôt dans le milieu aisé, classe moyenne, moyenne supérieure, par exemple le milieu médical, pour leur proposer des bonnes affaires de placement immobilier sans débourser un centime, bien évidemment, et en empruntant la totalité de l'investissement, les clients voyant les loyers couvrir les échéances des crédits. Et voilà comment il a appâté ses clients. Aujourd'hui, en 2012, ces jours derniers, un certain monsieur Léon Namani a été... Léon Namani, général adjoint du Crédit Mutuel Méditerranéen, a été mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée dans ce dossier tentaculaire. Ce qui fait de l'affaire Apollonia une des affaires les plus importantes en matière d'implication du monde de la finance. On vient de nous le dire, Monsieur Claude Michel vient de nous le dire, c'est pas seulement des banquiers qui sont en cause, je viens de donner le nom de l'un d'entre eux, c'est les banques elles-mêmes. Et ça, c'est une autre paire de manches. Suite du récit.
Apollonia, donc, c'était une société qui se voulait être gestionnaire de patrimoine et de biens, qui était le fleuron des entreprises de la région PACA. 36 millions de chiffres d'affaires, dont 18 millions de bénéfices nets après impôts. Alors, la société Apollonia a exercé contre nous, je dirais, un démarchage commercial très agressif pendant, ça a duré 16 mois chez nous, où on a eu de multiples contacts avec le commercial de l'époque, qui était M. Gouthière, qui était bien gentil, et qui venait assez régulièrement, après avoir passé un coup de fil, il venait nous rencontrer, alors il arrivait sur le carré sa voiture, la première remarque, il me dit « Mais c'est votre voiture ça, monsieur Michel ?»« Bernard quoi ?» Mais en montrant sa voiture, il me dit « Mais vous pourriez avoir ça ?» Alors il avait, je crois, une Bentley, je sais même pas ce que c'est, ça m'intéresse pas. Puis le coup d'après, il revient « Alors monsieur Michel, toujours pas décidé ?» Je lui dis « Non, ah, vous savez... » Dans la vie, des bonnes affaires, ça ne présente pas beaucoup. Il faut être suffisamment malin, suffisamment intelligent pour les saisir. Puis après, revenez une autre fois. Alors, monsieur Michel, vous n'avez pas pris la décision? Je dis non, non. Eh, vous savez, vous allez finir par rester tout seul sur le quai à regarder passer le train. Finalement, non, on s'est décidé, et mon épouse, on a dit, on va remplir le dossier, puis on verra bien. Puis un beau jour, un coup de fil. Monsieur Michel, je vous appelle, Bernard Gouthière. Voilà, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. « Ah bon, qu'est-ce que c'est ?» Mais il m'a dit « Votre dossier est accepté. » Alors là, on a l'impression d'avoir gagné le gros lot. Hein, le dossier est accepté. Ah, il a dit « Bon, ben maintenant, il faut passer à exécution. Vous allez avoir un coup de fil de la secrétaire de M. Badache qui va vous proposer un rendez-vous téléphonique avec notre PDG, ce qu'il accorde très rarement, mais enfin, vous allez pouvoir en bénéficier. » Alors, deuxième gros lot. C'est extraordinaire d'avoir un coup de fil avec une personne de ce niveau-là. Enfin, voilà. Alors, ils nous ont vendu des appartements en deux tranches. 9 petits appartements, studios, 3 studios et 6 petits appartements. Les appartements, on ne choisit pas l'appartement, on ne choisit pas le lieu, on ne choisit pas l'étage, on ne choisit pas le promoteur, on ne choisit pas le banquier, on ne choisit pas le notaire. Tout est imposé, c'est un package dans lequel on ne peut pas intervenir. Il était prévu de les garder quelques années, disons 5-6 ans. Pour nous, c'était le départ à la retraite de mon épouse, qui est un peu plus jeune. Et puis, à ce moment-là, on devait vendre les appartements et le produit de la vente devait nous permettre d'en conserver un. Donc, la location de cet appartement aurait pu permettre d'avoir un complément de retraite. C'était l'objectif. Et donc, ça se passe de la façon suivante. Mon épouse est d'un côté du bureau, moi je suis de l'autre. Il fallait tout signer, 2 piles de 10 cm, Badache tournefeuille pour l'un, Gouthière tournefeuille pour l'autre, et à vitesse grand V, si vous avez le malheur d'essayer de regarder un peu, une feuille ou quoi que ce soit, on vous dit, ah, si vous commencez à tout vouloir lire, alors là, c'est pas la peine, hein, on s'en va, on arrête là. Hein. Alors, bon, on continue à signer, etc. Alors, dans la pile, vous avez tout, des prototypes de plans, des biens. Après, vous avez la liste des fourchettes, des couteaux, des mobiliers. Vous avez, entre-temps, peut-être des offres de prêt. J'en sais rien, on ne sait pas ce qu'on signe. Mais on signe tout en vitesse. Et le reste, ne vous inquiétez pas, c'est blanc, vous signez quand même. On remplira, on ne va pas vous faire remplir ça maintenant. Ça se passe tout comme ça. Donc, ils sont très arrangeants, ils nous facilitent énormément les choses et on va dans le sens, tout à fait naturellement. Alors, l'avantage pour ces gens-là, c'est qu'en nous vendant un produit en vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur le papier, entre le moment où vous engagez, c'est-à-dire où vous signez l'acte de vente, et le moment où le produit est livré, il s'écoule à peu près 3 ans. Alors pendant les 3 ans, vous ne vous rendez compte de rien. Ce n'est qu'au terme de ces années, c'est-à-dire à la livraison du produit, que le gestionnaire vous paie les loyers. Et là, vous vous apercevez que les loyers ne couvrent pas du tout les emprunts, les charges et les impôts comme c'était promis dans l'engagement initial. Ça couvre à peu près 40%, ce qui veut dire que les 60% qui manquent, il faut les sortir de sa poche. Et il s'est avéré que la vente n'était pas possible parce que les biens ont été surpayés, en moyenne 2 fois leur prix, et pour certains jusqu'à 6 fois. Alors donc, il est invendable, sous peine d'accepter des fortes pertes, ce qui n'est pas possible pour nous. Parce que les emprunts, il faut les rembourser. Il faudrait les rembourser, quoi.
Parce que vous aviez fait un prêt de combien, du coup, pour réaliser cette opération?
Le total portait sur 1 400 000. Ça amène à un déficit annuel d'environ 85 000 euros. Autrement dit, il faudrait sortir 85 000 euros par an, pendant 20 ans, pour pouvoir payer ça. C'est absolument impossible.
Mais 1 400 000 pour une retraite, vous touchez une retraite de combien?
3 000 euros. Bon, il faudrait que j'en sorte 10 par mois. Donc vous voyez qu'il faudrait plusieurs vies pour arriver à payer ça. J'ai compris que je ne pouvais pas vendre. Je ne pouvais plus payer. Personne ne voulait m'aider. Parmi ceux qui m'avaient introduit là-dedans, personne ne voulait m'aider. Alors là, j'ai compris que ça allait très très mal tourner. Et bon, il est arrivé le moment où on s'est arrêté de payer, on ne pouvait plus. Et pendant donc des semaines et des mois, je n'ai eu qu'une chose en tête, c'était mettre fin à mes jours. Je tournais ça pendant jour et nuit, et au bout de quelques mois, une autre version m'est venue à l'esprit. Et là, vous savez, j'étais plus moi-même. Hein. Je me suis dit, avant de disparaître, tu vas d'abord les faire disparaître. Et je me suis vu avec mon fusil, j'étais chasseur, et donc je me suis vu avec mon fusil... là-bas, les attendre à la sortie. Et ce qui m'a freiné, c'est que j'ai eu peur qu'on m'empêche après de me faire mon compte. Et là, je me suis dit, je vais être doublement victime parce que je vais finir mes jours en prison. Alors bon, j'ai pris le taureau par les cornes pour essayer de monter une association. Cette association, donc, compte 800 personnes. L'association, 800 victimes de l'affaire Apollonia, ça représente 4500 lots, 120 ou 130 copropriétés, et environ 1 milliard, le montant d'escroquerie, c'est-à-dire le montant des prêts, environ 1 milliard. Dans cette somme-là, la réalité des produits existants et construits tournerait autour de 500 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 500 millions d'euros qui ont disparu dans certaines poches. On comprend très bien que ces gens-là aient pu s'offrir et venir nous voir avec des voitures et pu se déplacer en jet privé, en hélico, etc. quoi. Oui, il y a des gens qui ont vu arriver un hélicoptère dans leur champ ou dans le champ voisin duquel descendaient les démarcheurs. Je vais vous donner lecture, si vous permettez, de quelques passages relevés dans un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en juin 2011. Ça donne le tempo. Propos de M. Suchan, qui était un commercial d'Apollonia, qui dit « Je souhaite vous dire la vérité. J'ai personnellement falsifié plusieurs documents remis à moi par des clients, notamment relevés de compte, parce qu'il fallait à tout prix que les dossiers passent selon la consigne récurrente de Jean Badache. »
Les affaires marchent très bien et les Badaches flambent. Ils font la fête tous les soirs.
Canal+, novembre 2010.
Avec leurs commerciaux et leurs secrétaires, ils passent des vacances en 2009 à Necker Island, une île très prisée des milliardaires. Un endroit paradisiaque qu'ils privatisent pendant un mois. Coût du séjour, 1 million d'euros.
Et maintenant, il séjourne à la prison des Baumettes à Marseille depuis février 2009, ainsi que les commerciaux qui se sont éclatés avec l'argent des pigeons. C'est assez dramatique quand même, hein, pigeons, mais voilà, on oscille, hein, les points de vue. Je suis sûr, de l'autre côté du transistor, que ça oscille. Une autre personne qui a été victime de cette escroquerie énorme, hein, qui encore une fois met en scène non seulement évidemment la société de gestion de biens, les démarcheurs, mais aussi des notaires, mais aussi des banquiers, mais aussi des banques. Ça avance, l'enquête avance. En tous les cas, voici Isabelle à Fontainebleau.
Bonjour
Isabelle, installez-vous.
Merci. Vous habitez en région parisienne. Comment vous êtes rentrée en contact avec cette société Apollonia qui est basée à Aix-en-Provence? Comment ça s'est passé?
C'est une cooptation, c'est la société de mon mari qui nous a conseillé de faire l'investissement. Lui, il l'avait déjà fait et il nous a dit que ça fonctionnait, que c'était bien. Et donc, nous, on s'est laissé avoir comme ça.
Et vous, votre mari, il est médecin?
Il approche de la retraite et on a toujours des enfants scolarisés. Donc, la retraite est un sujet vraiment important à ce moment-là.
Donc, du coup, vous avez acheté combien d'appartements comme ça?
Alors, nous avons 12 lots pour 2 100
000. Ce qui représente quand même une somme
astronomique, je vous l'accorde. Franchement, nous ne pensions pas que ça passerait. Et donc, vous fournissez tout ce que vous avez. Et là, vous êtes contacté. Votre projet est financé par les banques. Rendez-vous, telle date. Donc, tout après, tout se fait très vite. En deux rendez-vous, l'affaire est faite. Les commerciaux arrivent avec le notaire. Là, vous signez les procurations pour acquérir, emprunter. Et les commerciaux ont déjà en leur possession les offres de prêt. Donc ils vous font signer les offres de prêt, ils vous prennent des chèques et ils repartent avec la totalité des documents. Les banques, ne vous adressant aucun document, ne vous contactant pas pour avoir la confirmation, poser des questions. Donc on n'avait aucun moyen de s'en sortir. En 10 jours, tout était fait.
Mais tout ça, ça ne vous paraissait pas étonnant de rien savoir
Ah si, c'est étonnant, mais ils ont toujours les arguments, et notamment celui le plus important, c'est si c'est financé par ces banques qui ont pignon sur rue, par la BNP, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, c'est que les projets sont béton. On se dit que les banques ne vont pas financer des programmes qui ne tiennent pas la route, au risque de ne pas être payées, de voir les échéances impayées. Et voilà, on pense pas qu'elles vont se tirer une balle dans le pied.
Ça s'est élevé à combien les remboursements à peu près?
Ça fait du... Moi, je vous donne une fourchette, hein, c'est du 15 000 euros par mois. Et en fait, avec un trimestre de loyer, vous faites un mois de remboursement de prêt. Donc, quoi qu'il arrive, nous n'avons pas de quoi, ce que nous gagnons, rembourser. Et même en vendant nos biens, on ne peut pas solder ce qu'on doit. Tout est fait, les saisies des comptes bancaires, on a le droit à tout, hein. Les huissiers qui viennent régulièrement, quand ça sonne à des heures un peu bizarres, on se dit « tiens, je vais ouvrir, c'est peut-être l'huissier ». Enfin, on vit avec la hantise de l'huissier qui vient vous rendre visite. Vous vivez une humiliation permanente, appelé devant les tribunaux pour payer ceci, cela. Non, c'est quand même incroyable. Enfin, on n'est pas forcément à Paris, on ne vit pas dans l'anonymat. Moi, quand je suis assignée devant un tribunal, on nous connaît. Tout le monde connaît notre nom, ça fait désordre. Et mon mari a les gens en consultation. Enfin, ben tout est comme ça. Hein. C'est, les huissiers, on les reconnaît dans la rue, hein, avec leurs papiers pliés en deux. Et on n'a qu'une sensation, c'est d'être considérés comme des parias. Enfin, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont toujours payé leurs créanciers. Ils ont dû croiser la route d'Apollonia pour être traités de mauvais payeurs. Du coup, ben, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Vous restez prostrés, vous attendez. Beaucoup ont pensé à mettre fin à leur jour, j'imagine. Hein. En tout cas, moi, j'en connais. Pour d'autres, ça a été « je me bats ». Je cherche, moi j'ai passé mes nuits sur internet, mon mari me disait je vais prendre un fusil, enfin tout le monde avait sa petite idée.
Et les gens autour de vous, ils sont au courant du coup maintenant ou...
On n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'il faudrait rester des heures sur le sujet pour expliquer, pour faire comprendre. Enfin il y a des problèmes pour tout quoi.
Cabinet avocat, bonjour.
Pourrais-je parler à Maître Alias, s'il vous plaît ?
Oui, ne quittez pas. Allô ?
Maître Alias ?
Oui, c'est lui-même, bonjour.
Bonjour.
Oui ?
Je vous appelais parce que je prépare un reportage sur l'affaire Apollonia.
Nous, ce qui choque au Crédit Mutuel, on a des gens qui disent n'avoir jamais eu les offres de prêt entre les mains. Qui disent avoir signé des emprunts multiples sans savoir ce qu'ils signaient. Ils ont signé pour 200 000 euros, pour 300 000 euros, sans rien regarder, ces gens-là, ces médecins dont on peut penser qu'ils ont un QI un peu supérieur à la moyenne, ou au moins moyen. Hein, ce ne sont pas des idiots. Hein. Moi, je ne crois pas que ça soit passé comme ça. Je pense plutôt que la vérité, c'est qu'ils ont été souvent séduits par le... D'abord, l'histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire classique que nous avons, surtout dans le milieu médical. Vous avez... de très bons commerciaux d'Apollonia qui vont laisser miroiter des avantages fiscaux à quelques-uns. Ils ont été certainement manipulés par Apollonia qui a réussi à leur faire souscrire des engagements au-delà de leur capacité d'endettement. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Mais vis-à-vis de chaque banque, ils savaient très bien ce qu'ils empruntaient. Ils ont peut-être été bernés ou induits en erreur par Apollonia sur les perspectives d'enrichissement de ce dossier, mais ils ont cru aussi faire la super affaire.
Oui, bonjour. J'ai rendez-vous avec Maître Gobert.
Oui, je vous ouvre.
Merci.
Voilà, alors après... Maître Alias, qui est, vous avez compris, l'avocat des banques, exactement, plus précisément, du Crédit Mutuel, et il le défend, bien sûr. Nous voici chez Maître Jacques Gobert, avocat des victimes d'Apollonia.
Donc, Maître Gobert, là, on se trouve à Marseille, dans votre cabinet. Vous êtes avocat et vous défendez les très nombreux plaignants de l'affaire Apollonia.
Bien, ce qui me frappe dans le dossier Apollonia, c'est que les banques, grâce à ce système où les clients ne rencontraient jamais leurs banquiers et que tout se passait par l'intermédiaire d'Apollonia, qui rédigeait les demandes de prêt, qui recevait les offres de prêt, qui retournait ces offres de prêt, les banques pouvaient vendre des crédits dans des conditions extrêmement lucratives pour elles. C'est d'ailleurs le but qui était recherché, à tel point que les banques, pour parvenir à ce résultat, n'ont pas hésité à enfreindre volontairement les règles en matière de distribution du crédit et même à se prêter, par l'intermédiaire de leurs préposés, à des falsifications. Je dis bien, les banques se sont prêtées à des falsifications de documents pour permettre justement la mise en place de ces prêts.
Donc les banques ont volontairement endetté, surendetté les gens pour faire du profit ?
J'en suis convaincu.
BNP Paribas, bonjour. Je vous mets en relation avec la presse.
Oui, service communication.
Voilà, un instant.
Merci.
Voilà, alors cette fois-ci, nous voilà en contact directement avec la BNP.
Jean-Martin France, bonjour.
Oui, bonjour. Je travaille sur l'affaire Apollonia.
Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est qu'on... On ne peut pas prendre la parole, si vous voulez, de façon officielle sur le sujet, parce qu'il y a donc, d'une part, l'affaire est en cours, et la deuxième chose, c'est que nous sommes constitués partie civile nous-mêmes. Hein, la société BNP Paribas Personal Finance s'est constituée partie civile dans cette même affaire. Donc voilà, du coup, officiellement, on ne s'exprime pas sur ce sujet.
Vous êtes constitué partie civile, ça veut dire que vous vous considérez victime aussi de l'escroquerie à Polonia ?
Voilà, c'est ça.
Donc vous n'étiez pas au courant que les documents étaient falsifiés ou des choses
absolument.
Comme ça ? D'accord. Mais par contre, sur la pratique de jamais rencontrer les gens quand on fait des prêts à plusieurs millions d'euros ?
Ça, on va dire, c'est une façon de commercialiser hein, qui est assez répandue et normale. Hein. Ça n'est pas quelque chose de hors norme. Hein.
Ça, c'est courant comme pratique.
C'est le moment où vous avez des intermédiaires qui sont habilités à le faire et c'est une pratique qui est courante, évidemment. Hein. On regarde effectivement, bien évidemment, les dossiers, mais si les documents sont falsifiés, on ne peut pas aller au-delà de ça, quoi. Hein. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus honnêtement. Hein.
D'accord, parce que M. Perrotin, qui est un directeur régional, est aussi mis en examen pour complicité d'escroquerie en bande organisée.
Vraiment, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Hein. Voilà, je suis désolée. Hein.
D'accord, je vous remercie.
Merci à vous.
Au revoir.
Alors voilà. L'affaire Apollonia, 2000 victimes, 1 milliard d'euros envolés dans la nature, des notaires mis en cause, mis en examen ou voire emprisonnés, des commerciaux également, le responsable de l'affaire, monsieur Jean Badache, créateur et animateur et propriétaire d'Apollonia, et puis des banques et puis des banquiers. Évidemment, les banques et les banquiers cherchent à se défendre par tous les moyens, quitte à se considérer auprès de la justice comme victime des affreux Apollonia. Alors, qui est complice, qui est victime, quand saura-t-on en quoi consiste précisément cette escroquerie en bande organisée, ce qui est la conviction de la justice pour l'instant? On le saura sans doute bientôt, le feuilleton continue, et Claude Michel lui aussi.
Bon, à partir du moment où le procureur de la République a ouvert, c'était donc en juillet 2008, a ouvert une instruction pour escroquerie en bande organisée, faux, usage de faux, activité bancaire illégale, je répète bien, association de malfaiteurs. Alors là, je me suis dit, mais si je continue à payer les banques, un, je vais à la ruine, et je n'étais pas loin. Deux, j'alimente l'escroquerie. Alors j'ai dit, j'arrête de payer. C'était une décision difficile. Ah bien, les banques, alors, dès que vous ne payez plus, on vous assigne au tribunal. Donc on était assignés, condamnés à payer, on ne pouvait pas. Alors après, s'enclenche la procédure de saisie. Tout ce qui peut être saisi a été saisi. Nos comptes bancaires sont vides. Dès que la retraite rentre, ben on va la retirer. Puis on laisse rien, le compte à zéro. On est obligé, on a affaire à des voyous. Dans la maison où vous êtes, nous avons eu une saisie de meubles. On doit, grosso modo, on va dire 250 000 euros, on doit au Crédit Mutuel. Ils nous ont envoyé pour une saisie de meubles ici. Vous voyez, si un brocanteur vient dans la maison, il prend tout ce qu'il y a, il en aura pour 3 000, 5 000, 10 000 euros maximum. Et puis, le 15 janvier 2010, les notaires ont été incarcérés. Trois d'entre eux, six mis en examen. Pour faux, usage de faux et faux en écriture publique. Autrement dit, les actes qu'ils éditaient, les actes authentiques qu'ils éditaient jusque-là et qui servaient aux juges pour nous condamner, se sont avérés entachés de nullité. Ils ont perdu leur authenticité. Mais les banquiers n'ont rien voulu savoir, ont continué leurs agressions pour récupérer du fric. Le Crédit Mutuel nous a assigné. Les biens ont été saisis. vendus aux enchères. Nous les avions achetés 5 ans avant, 75 000 euros, c'était des studios. Ils ont été mis aux enchères 20 000 euros. Et ils ont été rachetés par une société, la société Actimo, dont le siège social est 494 avenue du Prado à Marseille, qui est le siège social du Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel a créé une société, ou a utilisé une société, filiale, pour racheter les biens. Ils ont racheté les biens qu'ils nous ont fait saisir, et ils ont racheté 40 000 euros. C'est la deuxième escroquerie. On est dans le crime. On est dans le crime. On n'est plus dans le business, on n'est plus dans l'escroquerie, on est dans le crime. Les actions que mènent certaines banques aujourd'hui sont des actions criminelles. Et je parle encore du Crédit Mutuel. Tout ça, il faut le savoir aussi, en niant le fait que l'acte authentique qu'ils ont pour faire ça est un faux. Alors ça s'appelle l'escroquerie au jugement. Voilà où nous en sommes.
Il y a 1000 raisons d'épargner, 1000 façons de le faire, et chacune correspond à un besoin spécifique. Faire face à des dépenses imprévues, préparer l'avenir, transmettre ses biens. À l'heure où les produits d'épargne sont de plus en plus complexes, de plus en plus nombreux, le Crédit Mutuel vous aide à faire le point pour épargner en toute connaissance de cause, avec les idées claires. And you belong to me.
Oui, bon, c'est quand ?
Oui, bonjour, je suis bien au service communication du Crédit Mutuel ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Je vous appelais au sujet de l'affaire Apollonia. J'aurais bien aimé avoir une réaction d'un responsable ou du service communication au sujet du rôle du Crédit Mutuel dans cette affaire.
Non, pas de commentaire à faire.
Pas de commentaire à faire ?
Non.
Personne du Crédit Mutuel s'exprimera sur l'attribution des prêts, sur les usages de faux, sur les saisies qui continuent ? Alors que, visiblement, il y a eu quand même beaucoup d'irrégularités. Ce serait quand même bien d'avoir une réaction, non ?
Je viens de vous répondre.
Donc, je dois noter quoi ? La banque n'ose pas s'exprimer, c'est ça ?
Voilà, pas de commentaire.
Pas de commentaire.
Bonne journée.
Crédit Mutuel, plus que jamais, la banque à qui parler.
Et vous avez été aussi affecté, enfin, je suppose, par cette histoire quand votre mari vous a...
Oui, énorme. Non, oui, il l'a gardé pour lui, il ne voulait absolument pas me mettre dans la confidence, il ne voulait absolument pas que je souffre dans la mesure où je continuais à travailler.
Vous faisiez quoi ?
J'étais professeur de sciences de la vie et de la terre, pendant 40 ans. évidemment, il est allé très progressivement, hein, mais bon, c'était très, très perturbant, quoi. Ouais. De toute façon, il fallait se battre, hein. On n'avait pas d'autre solution.
Vous savez, au début, c'était pas évident d'annoncer cette affaire. On l'a cachée, parce qu'on était, considérés comme des idiots, des imbéciles, des mauvais payeurs. Nos parents nous ont toujours éduqués dans le droit chemin. On empruntait un sou, on le rendait. Et là, de se voir dans l'incapacité de faire face à cette situation, c'est dramatique. Il y a aussi l'humiliation. Moi, j'ai été élu pendant 12 ans en qualité de premier adjoint dans la ville, ici. Et qui plus est, je m'occupais des affaires financières de la commune. Hein, donc, l'opposition, évidemment, ce sont des gens qui me croisent, que je vois. Hein, qui doivent dire, heureusement qu'il n'y est plus. c'est évident. Bon, après, j'ai été proviseur d'un lycée, de plusieurs lycées dans la région. Et bien, c'est encore pareil. C'est encore pareil. Bon, le proviseur, on l'avait passé à la télévision, il est ruiné, il s'est fait revoir, il s'est fait rouler. Ben, c'est peut-être bien fait pour lui, certains pensent, etc. Quoi, c'était une humiliation. Je ne baisse pas la tête. Bien au contraire, je vous dis, c'est pas encore le cas, mais je suis sûr que nous serons fiers d'avoir dénoncé cette escroquerie. Vous savez, c'est ce qu'on a vu aux États-Unis sous d'autres formes. Hein, l'objectif des banquiers, c'est de faire du profit. Le profit au maximum, à n'importe quel prix, on a fait n'importe quoi, sans scrupule.
Je précise, vous n'êtes pas un jeune dangereux gauchiste, extrémiste, qui veut tout saccager.
Non, pas du tout. Bon, je suis un retraité, mais je ne vous cache pas qu'il y a eu un passage dans cette affaire-là où j'étais aux dernières extrémités. Et je ne vous cache pas que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On n'a pas évité tous les suicides, ça c'est sûr. Mais jusqu'à maintenant, à ma connaissance, on a évité que des gens prennent les armes pour aller régler les comptes. L'association aura au moins servi à ça.
Les pigeons d'Apollonia, merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter l'intervention de Jean-Pierre Garnier dans l'émission de vendredi. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook de l'émission. Jean-Philippe Jeanne et Defar Guéride étaient à la technique aujourd'hui. Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
À l'occasion de l'exposition Radio Ouvrez Grand Vos Oreilles au Musée des Arts et Métiers, procurez-vous le catalogue qui célèbre l'histoire de la radiodiffusion en France. Des postes à galènes aux enjeux de la radio numérique, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la radio se trouve dans ce livre de référence. Histoire de la radio Ouvrez Grand Vos Oreilles, sous la direction d'Hervé Glévarec, une coédition Radio France.
France Inter et le théâtre Nanterre-Amandier présentent du 9 mars au 14 avril Oncle Vania, scène de vie à la campagne, d'Anton Tchekhov. Mise en scène par Alain Françon. Dans Oncle Vania, scène de vie à la campagne, tout est encore possible. Le temps d'un été, chacun va laisser éclater un fragment de sa vérité, de sa déception, de son désir. Retrouvez Oncle Vania, scène de vie à la campagne, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut.
L'élection présidentielle en Russie n'a pas été exemplaire, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ce que déclare Alain Juppé, le chef de la diplomatie, après l'élection de Vladimir Poutine dès le premier tour. Le Quai d'Orsay dit étudier le rapport des observateurs internationaux qui fait état de nombreuses irrégularités dans le scrutin russe. L'opposition russe appelle ce soir à manifester à Moscou. Moins mesurée la réaction de la chancelière Angela Merkel, qui a appelé Vladimir Poutine à la mi-journée, ou encore celle des présidents chinois et syriens, Bachar el-Assad. Nicolas Sarkozy dément tout pacte anti-Hollande. En déplacement à Saint-Quentin, dans l'Aisne, le chef de l'État est revenu sur l'article de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, selon lequel plusieurs dirigeants conservateurs européens se seraient entendus pour ne pas recevoir le candidat socialiste avant la présidentielle. Nicolas Sarkozy assure qu'il n'en a jamais parlé à ses homologues européens. Il dit y voir un problème de crédibilité de son adversaire socialiste. De très gros retards depuis ce matin sur les trajets du Thalys, de l'Eurostar et du TGV, résultat d'une panne d'un train Amsterdam-Paris ce matin dans la Somme. La motrice a connu un début d'incendie vite maîtrisé. Les 480 passagers à bord ont été remorqués jusqu'à Arras avant d'être acheminés à Paris. Mais les deux voies ont été bloquées et les autres trains ont roulé au compte-gouttes avec d'importants retards à l'arrivée. Surprise pour la police de Lyon, elle est tombée par hasard sur un virtuose du piratage informatique âgé d'à peine 16 ans. L'adolescent a reconnu avoir piraté un site de vente en ligne pour récupérer les coordonnées bancaires des clients. Nicole Guillard.
C'est un ado hyper doué en informatique. Il a avoué spontanément aux policiers qu'il adorait ça, qu'il piratait allègrement et qu'il passait beaucoup de temps à essayer de trouver des failles des sites internet. Sauf que la tentation d'en profiter était trop grande et qu'il a commencé à copier les coordonnées de clients des sites. Chez le grand bijoutier lyonnais Jean Delatour, on s'est aperçu d'intrusions multiples sur le site internet en octobre dernier. L'enquête a alors commencé, mais le jeune pirate a fini par se piéger lui-même. Il a obtenu les coordonnées bancaires de clients client de Delatour en prétextant un dysfonctionnement du site et il a commandé un ordinateur portable qu'il a fait bêtement livrer dans la station-service où travaille sa mère à Vénissieux. Les policiers ont donc été plutôt surpris de se retrouver face à ce hacker précoce et ils vont devoir vérifier qu'il n'a pas commis d'autres vols sur d'autres sites. Lyon, Nicole Guillard, France Inter.
Notez par ailleurs que 2% des ménages français sont victimes de fraudes bancaires selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Dans la moitié des cas, les escroqueries sont la conséquence d'un achat sur Internet. Mieux vaut donc être prudent, même s'il s'agit en général de sommes peu élevées, de l'ordre de 250 euros. Il est 16h03 sur France Inter et c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, la Russie, oui, France Inter y était ce matin, le 7-9, Pascal Clark, il y a des émissions qui ont reflété ce qui se passe, ces élections qui sont quelquefois un peu troublantes peut-être, en tout cas, la Russie nous fascine toujours, ça c'est absolument certain. Eh bien, toute cette émission va y être consacrée. Je vais vous proposer tout d'abord un extrait d'une sonate pour violoncelle et piano de Sergueï Prokofiev, qui était cher au grand Rostropovitch, et là c'est un jeune violoncelliste qui s'appelle Alexandre Vey, qu'on va pouvoir entendre. Il est né en 1986, il a commencé la musique à l'âge de 5 ans. Il va jouer avec Dimitri Papadopoulos, avec lequel il fait de très beaux concerts. Il a obtenu des récompenses aussi un peu partout. Et ces deux virtuoses seront ce soir à la maison de Radio France à 19h pour l'enregistrement du concert de Plaisir d'amour. Donc nous vous convions à venir à partir de 18h30 à la porte B de Radio France. Tout à l'heure, je vous donnerai le nom des autres artistes qui seront avec nous. En tout cas, voici ce magnifique Allegro Manon Mosso, Manon Tropo de la sonate pour violoncelle et piano. En fait, elle change de mouvement plusieurs fois, elle change de tempo, mais enfin, le principal c'est qu'il y a un joli chant, le premier thème qui revient, et puis après ça, des arpèges, des gammes, toutes sortes de pirouettes violoncellistiques. Et ben oui, il y a une école magnifique en Russie, le violoncelle en tout cas a toujours été à l'honneur depuis Rostropovitch et même un peu avant. Conclusion de la sonate pour violoncelle et piano de Sergueï Prokofiev, interprété par Alexandre Vey au violoncelle et Dimitri Papadopoulos au piano. Ils seront avec nous aujourd'hui à Radio France Studio 106. Venez nombreux à la porte B vers 18h30. Et c'est une émission qui dure, il y a un enregistrement pour l'émission diffusée le samedi d'après qui dure jusqu'à 21h. Il y aura aussi Denis Pascal au piano qui va jouer du Debussy.